Chaque samedi à midi du citoyen aux politiques, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
Qu'est-ce qui se passe? Et c'est très logique. En gros, les taux et les volumes du crédit immobilier en France, que je regarde le nombre de prêts ou les montants, sont revenus à la situation avant 2015. C'est logique, puisqu'on est sorti des taux exceptionnellement favorables qu'on avait depuis 2015. Que je sache, avant 2015, l'immobilier était considéré comme normalement financé en France. Nous sommes revenus à cette situation. Par ailleurs, quand on compare aux autres pays européens qui ont la même politique monétaire, c'est en France que le crédit immobilier est à la fois le plus abondant en volume de production et le moins cher. Nous n'allons pas pousser au surendettement des Français, parce que là, la vraie crise sociale dont vous parlez, elle serait là.
C'était en mai dernier, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, assurait sur l'antenne de Radio Classique que la hausse des taux des crédits immobiliers n'était finalement qu'un retour à la normale. Une position réaffirmée ce mercredi 13 septembre dans un entretien à nos confrères de l'AFP. Cette semaine encore, la Banque Centrale Européenne a pour la 10e fois consécutive relevé ses taux directeurs, portés à 4%, un niveau jamais atteint depuis le lancement de la monnaie unique en 1999 pour tenter de contenir l'inflation. Le prix du crédit va donc encore augmenter et par conséquent resserrer encore le nombre d'aspirants propriétaires. En juillet, la production de crédit a chuté de près de 45% par rapport à la même période l'an dernier et flirte avec le niveau qui était le sien à l'automne 2014. Pendant ce temps, les acteurs du logement alertent. Les mises en chantier dans le neuf s'écroulent, tout comme le nombre de biens proposés à la location dans le privé et par les bailleurs sociaux. Doit-on dès lors craindre, comme le déclarait en juin dernier l'ex-ministre du logement Olivier Klein, une bombe sociale? À l'heure où la nécessaire transition écologique pousse certains à vilipender le modèle du pavillon en périphérie et à prôner le zéro artificialisation nette, faut-il voir dans ces multiples facteurs la fin du mythe de la France des propriétaires, née il y a maintenant 50 ans? Et avec nous à distance, Anne Lambert, vous êtes sociologue chargée de recherche à l'INED. Vous avez signé en 2015 aux éditions du Seuil, Tous propriétaires, l'envers du décor pavillonnaire. Bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Alors, on entendait François Villeroy de Galhau nous dire que tout ceci n'était qu'une petite rectification, qu'on revenait à la normale après des années d'argent gratuit. Est-ce que c'est ce que vous voyez aussi dans la conjoncture et la hausse des taux?
Alors, on peut dire qu'il y a une évolution assez rapide et brutale, effectivement, du coût du crédit immobilier qui bouscule un peu le marché de l'accession neuve, et en particulier qui a des répercussions sur les jeunes ménages modestes. Mmh. Mais le marché reste quand même relativement dynamique. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les transactions dans l'ancien, en fait, et que les chiffres de la Banque de France montrent qu'effectivement, la part des primo-accédants se maintient, même s'il change un peu de profil, et que par ailleurs, le nombre de transactions immobilières baisse beaucoup moins vite en fait, que la production de crédit, ce qui donne une idée en fait, du fait que les transactions qui ont lieu aujourd'hui en France, jusqu'en juillet 2023, les chiffres, se font avec plus d'apports personnels. Donc c'est des accédants probablement plus aisés avec plus d'apports, et qui recourent moins au crédit. Donc voilà, il faut avoir un discours peut-être plus mesuré par rapport à cette crise massive qui porte un peu des intérêts économiques aussi divergents à l'échelle des professionnels de l'immobilier.
Ce qu'on voit aussi, c'est ce que vous nous dites, c'est que finalement on aurait des accédants qui bénéficient d'un patrimoine et on l'entend aussi et on peut le lire des témoignages de gens qui nous disent que on peut acheter cash, on peut voir des gens qui achètent cash des logements comptant sans passer par une banque. Et de l'autre, cela signifie que ces quelques années où on a vu des taux extrêmement bas ont pu donner à espérer à une catégorie de la population qui, à l'état normal du marché, en aurait été exclue.
Oui, alors c'est un phénomène quand même de long terme, mais vous avez complètement raison. On mesure ça, nous, avec les enquêtes logement depuis au moins le début des années 2000. Le prêt à taux zéro, pour rappel, a été créé en France en 1995. Si on regarde toutes les enquêtes logement empilées, 1996, 2002, 2013, etc., ce qu'on voit, en fait, c'est que de toute façon, il y a effectivement une éviction quand même progressive des ménages modestes. Je ne parle pas des ménages pauvres, mais des ménages qui sont sous certains seuils de revenus, y compris des ouvriers, des employés stables, etc., de l'accession. Et depuis le milieu des années 90, il y a plein de dispositifs de politique publique qui ont visé à relancer, à soutenir l'accession de ces ménages modestes, et ça stagne. Et ça veut dire que la part des ménages qui sont aujourd'hui propriétaires ou accédants stagne, on est autour de 58% des ménages en France, et par ailleurs, la part des ménages modestes dans cette primo-accession se restreint malgré les dispositifs. Nous, on a regardé ça avec mes collègues économistes Laurent Gobillon et Sandra Pelé, à partir de la base exhaustive des prêts à taux zéro émis en France. L'existence de ce prêt, en fait, ça a permis de limiter l'éviction complète de ces ménages du marché de l'accession. Mais ça a eu deux effets, néanmoins. Ça n'a pas compensé la hausse des inégalités de revenus et de patrimoine. Donc, ils sont quand même proportionnellement moins nombreux qu'avant. Et par ailleurs, il y a eu un effet aussi sur la distribution spatiale des ménages, socio-spatiale, qui est très intéressante et on en parle moins. Ça a eu un effet de les éloigner plus souvent que les autres ménages des centres urbains, etc. C'est-à-dire que quand ils se saisissent d'un dispositif aidé, allez, selon le paramétrage du dispositif en tout cas, mais dans cette période-là, ils allaient plus loin, ils parcouraient plus de kilomètres pour acheter avec le PTZ dont ils avaient obtenu l'accord. Donc, vous voyez que ça, c'est cette histoire des accédants modestes, comment on arrive à les maintenir dans la propriété. Elle est longue et elle s'est heurtée à un certain nombre de dispositifs qui n'ont pas eu le succès escompté.
Oui, mais on entend qu'il y a finalement des effets pervers aussi dans les politiques mises en œuvre de soutien à l'accession qui ont conduit à favoriser une forme d'étalement urbain peut-être d'un côté et de l'autre surtout un éloignement profond des catégories populaires de leur lieu peut-être de travail.
Oui, alors effectivement, on le mesure un peu tardivement parce que on a eu la crise des gilets jaunes, il y a l'inflation du coût de l'énergie, d'essence, du pétrole. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le modèle pavillonnaire où on parcourt 30-40 km pour aller à son travail n'est pas soutenable du point de vue de la collectivité, c'est-à-dire des communs, de l'environnement, de la biodiversité, etc., mais du point de vue des ménages, c'est-à-dire tout simplement le budget des ménages. Et le budget de ménage, il ne faut pas oublier que la propriété, là on parle du coût du crédit, du coût des logements, mais elle dépend aussi de leurs revenus et des revenus du travail. Et les revenus du travail, il y a deux choses qui pèsent sur ces revenus. Ils sont très modérés, voire ils stagnent. Et par ailleurs, le développement des contrats précaires sur le marché de l'emploi, des contrats courts, des CDD, etc., ne facilite pas du tout l'accès à des parcours de logements plus sécurisants, plus stables pour les ménages. Donc, on a un peu tendance à dissocier ce qui se passe sur le marché du logement et du crédit avec ce qui fait la source de revenus de la plupart des primo-accédants. Hein, 80%, ils achètent même plus avec le crédit, effectivement, avec de l'emprunt. Et ça, c'est lié aux revenus du travail. Il faut des revenus stables. Et dans des couples biactifs, le plus souvent, on demande de revenus stables, ce qui est de moins en moins le cas en France.
Avec effectivement des modalités de contrat qui sont parfois très éloignées de la réalité de ce que ces catégories populaires ou de ces petites classes moyennes vivent. Alors justement, Lina a 33 ans, elle est mère de deux enfants, elle est en CDI, elle vit à Montargis, elle a tenté d'accéder à la propriété sans succès. Elle raconte.
Je l'avoue, je l'admets, je suis vraiment partie confiante. J'étais en CDI, j'étais chez mon conjoint qui est propriétaire, donc pas de loyer, pas de traite de maison, pas de crédit. J'avais un apport en plus de ça. J'y étais très confiante. Et j'ai fait ma première banque, limite en me disant, mais j'en ai qu'une affaire, j'y vais. Et puis j'y vais, elle me fait ses petits calculs, et puis elle me dit, mais ça passe pas en fait. Et elle m'explique, elle me dit, en fait, en termes de taux d'endettement, vous n'êtes pas bonne. Et c'est là où elle m'explique, elle me dit, oui, par exemple, là, c'est votre voiture qui bloque. Et on va jusqu'à te dire, vendez votre voiture, revenez demain, et je vous fais le crédit qui passe jusqu'à 150 000 euros, quoi. Et je dis, attendez, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire. Sachant que c'était un achat locatif. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit qu'en gros, le loyer que moi, je prévoyais d'avoir allait rentrer. Il ne rentre pas dans les comptes. Et puis, il y a aussi cette histoire de santé. Alors bon, moi, malheureusement, je suis jeune, mais j'ai déjà eu des antécédents, etc. Je sais que là, demain, je devrais refaire un test médical. Effectivement, je vais pas être la meilleure des clientes pour eux. Donc, concrètement, c'est pour pouvoir laisser à mes enfants quelque chose. Et bah, franchement, le fait justement d'être partie confiante, j'ai pris x2. C'est-à-dire que vraiment, en termes même de, mais même de confiance en moi, parce que j'ai fait, il faut le savoir, j'ai fait quand même 4 banques, hein, parce que je me suis dit, peut-être c'était un détail qui faisait que j'étais ailleurs, et les 4, c'était pareil. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, je rentre pas dans les cases, je peux plus rien faire, je suis bloquée, je vais rien laisser à mes enfants, il va falloir que je finisse de mon crédit voiture. Mais du coup, bah, là, j'avance aussi. Alors, je suis pas vieille, mais en soi, elle est à 40 ans. Redemander un crédit de 20 ou 25 ans, bah c'est plus pareil qu'à 20 ou à 30 ans. Donc il y a eu plein de choses dans ma tête où je me suis dit, puis ne serait-ce que demain, il m'arrive quelque chose. Demain ou dans un futur proche. Bah, j'ai quoi? J'ai rien. J'ai rien. En fait, c'est instauré. Il faut laisser un bien immobilier. C'est bête, hein? Mais je pense que c'est instauré en France de se dire, il faut laisser la pierre. J'ai fini en pleurs. Mais tu arrives à un stade où tu te dis, mais en fait, j'ai plus, t'es là, t'es, j'ai plus de solution, je fais quoi? Je fais quoi? Parce qu'en soi, on sait très bien qu'il y avait une catégorie. Avant, tu avais, comme on disait, tu avais la classe moyenne. C'est fini, ça. Maintenant, c'est. Bon, en gros, je grossis le truc. T'es riche, t'es pauvre. Il n'y a plus de classe moyenne. Et donc, cette partie-là, où justement, bah, t'as pas le droit à des aides parce que t'es trop, mais t'as pas, mais en même temps, tu vas payer comme les autres parce que t'es vraiment dans ce truc où tu te dis, bah, en fait, moi, j'ai pas le droit aux aides et tout parce que je suis pas assez pauvre. Puis en même temps, je suis pas assez riche pour bien vivre. Et bah, c'est toute cette classe-là qui était en plus. Majoritaire, on va dire, ben c'est celle-là qu'on pâtit. Mais quand, à partir du moment où tu te dis, bah tiens, ce mois-ci, on va pas aller faire de restaurant, tiens, on va pas aller. Donc, tu considères que c'est devenu un luxe. Alors que tu m'aurais dit ça il y a 3-4 ans, je t'aurais dit, tiens, tu viens à la maison, eh bien, on va se faire un resto ce soir et je te le paye. Et tu réfléchis même pas, en vrai, tu te poses même pas de questions. Maintenant, tu réfléchis. Ma fille, elle a 11 ans, maman, on va au ciné. Mais avant, ben, on va au ciné 3 fois, 10 fois. Là, tu te dis, attends, est-ce que ça passe en fin de mois? Putain, si la carte, j'ai pas. C'est grave, c'est dramatique. C'est dramatique, c'est devenu un luxe. Donc maintenant, c'est payer, pour avoir le toit, la santé, à manger dans le frigo. Mais tout ce qui est à côté, c'est devenu du luxe.
Anne Lambert, Lina, elle nous dit beaucoup de choses dans cet extrait. Finalement, ce qu'on entend de la part de celle qui se considère comme faisant partie d'une petite classe moyenne, c'est que le fait de ne plus pouvoir accéder à la propriété alors que normalement elle aurait dû être dans les clous, est aussi synonyme d'une forme de déclassement à l'image de ce qu'elle peut vivre aussi et ce qu'elle nous raconte sur l'inflation, sur la manière dont la vie chère percute aussi ses existences. Il faut le voir comme ça.
Ah oui, tout à fait. On voit bien là qu'elle rapporte deux choses. Elle sent, elle perçoit le phénomène un peu de. Alors, elle dit bipolarisation de la société, mais en tout cas, creusement des écarts de revenus et patrimoine en France, avec des ménages de plus en plus riches en haut de l'échelle et une frange qui se paupérise ou qui stagne en bas de l'échelle sociale. Hein. C'est ce que Musée Piketty sur l'accroissement des inégalités de revenus et patrimoine. Et par ailleurs, elle dit quelque chose qui est plus subjectif, mais qui traduit ça aussi. Pour ses enfants, elle se projette, elle n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. C'est ce que le sociologue Nicolas Duvoux, mon collègue, vient de sortir un livre sur ce sujet, sur l'avenir confisqué. Il dit le rapport à la propriété, l'accession, c'est pour soi, mais c'est aussi pour ses enfants. Laisser quelque chose. Alors, on ne sait pas ce que ça va valoir du point de vue financier, immobilier, mais c'est symboliquement les mettre à l'abri. Et moi, quand j'ai suivi, dans la dernière décennie, un certain nombre d'accédants, primo-accédants aidés, hein, ouvriers, employés, infirmières, etc. Le discours de justification de ces efforts financiers et budgétaires, c'était les enfants. Je veux les sortir des grandes banlieues denses de l'habitat social et je veux leur garantir un meilleur avenir, les protéger dans l'avenir. Or, ce qui se passe, c'est effectivement qu'elle n'arrive pas, effectivement, elle, dans son cas, à accéder à la propriété. Et donc, elle a ce sentiment d'avenir confisqué. Elle ne sait plus vers quoi se retourner. Et ce qui s'est passé récemment en matière de Covid, pendant la crise sanitaire, hein, les politiques de confinement, mais aussi là, avec les épisodes climatiques récents, les canicules répétées, etc. En fait, ça nous rappelle que le logement, il joue un rôle central dans le déroulement de la vie quotidienne et de plus en plus central, en fait. Il a toujours été important. Hein, c'est le lieu de vie, il y a l'intimité, le lieu de la famille. Mais là, on voit que le logement aussi, il doit... c'est un élément de la santé majeure des individus. On avait oublié ça, hein, avec l'accès à l'eau potable, au courant depuis les années 50, etc. Mais là, on voit pouvoir vivre dans un logement habitable de manière durable, avoir la sécurité matérielle, financière autour de ce logement. Ça devrait être un bien, un droit pour l'ensemble des Français, et ça ne l'est plus. Et donc là, elle nous parle de sentiment de précarité financière et matérielle qu'elle ressent. face au coût de la vie, ce qu'elle appelle le coût de la vie, la stagnation des revenus, le surenchérissement, le coût de l'énergie, tout ce qui est chauffage, dépenses, même alimentaire. Et puis, elle est bloquée, elle ne peut pas passer le pas de l'accession. Donc là, on voit vraiment qu'on est dans une crise immobilière, je dirais pas du tout généralisée, qui est en fait une crise qui pénalise effectivement surtout des petites classes moyennes. La réponse, je ne suis pas sûre que ça soit de construire plus et effectivement d'allonger les crédits, puisque quand on analyse de manière à la fois qualitative, en suivant les plans d'endettement des ménages et aussi en regardant les chiffres de la Banque de France ou les chiffres des enquêtes logement, ce qu'on observe toujours, hein, c'est que les primo-accédants modestes, ils ont des prêts plus nombreux pour un même achat, une même acquisition, plus long et donc qui coûte plus cher que les autres ménages. Et on n'est pas sorti de ce problème.
Oui, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que, mais on y reviendra dans une prochaine émission certainement, c'est que cette crise de l'immobilier qui s'annonce, c'est aussi le nombre d'appartements, enfin de programmes neufs qui sont mis en chantier, qui s'écroulent, le stock de HLM qui se réduit, c'est-à-dire que l'alternative à cette accession à la propriété est de plus en plus tendue, et ça, on le voit. Quoi qu'il en soit, vous disiez à l'instant que voilà, le Covid nous a aussi rappelé à quel point cette sécurisation passe par le logement. À Montargis, Ouvilina, elle me disait aussi que voilà, le rapport au pavillon était quelque chose d'extrêmement important. Le Covid nous a aussi rappelé hein, peut-être une forme de revanche de la banlieue et du périurbain, avec cette nécessité d'avoir du vert autour de soi, etc. Est-ce que ça, c'est un modèle qui finalement est amené à dépérir ?
Alors, tel qu'on l'a développé depuis, en gros, les années 50, milieu des années 50, oui, encore une fois, parce que c'est pas soutenable du point de vue des pénuries de ressources, du coût de l'énergie fossile, du développement durable. Et puis, c'est pas adapté à deux choses. Les structures familiales et conjugales aujourd'hui, la dynamique, je veux dire, on se met plus en couple, on se sépare plus, il y a une mobilité plus grande. Et les revenus du travail ne sont plus aussi stables qu'avant. Donc, c'est un modèle tel qu'on le construit, c'est-à-dire des maisons sur des parcelles. Alors, on a limité la taille aujourd'hui, on n'a plus de critères. Enfin, il faut une certaine densité, etc. Mais chaque maison sur son jardin, maisons isolées qui ne sont pas construites mitoyennes, eh ben, c'est plus dur à chauffer. On consomme plus de canalisation, on consomme plus d'espace vert. Enfin, rien ne va, en fait, du point de vue de la collectivité d'individu. C'est peut-être effectivement qu'on ne sait pas encore bien ou qu'on ne met pas l'argent où il faut pour produire des formes plus durables de logement. Ça coûte parfois un peu plus cher, c'est toujours un peu plus long. Mais effectivement, en créant des zones dans les villes qui sont... où les espaces verts sont plus nombreux, voilà, moins de goudron. Enfin, voilà, il faut réinventer le modèle de la ville dense, bien sûr. Et il y a plein de gens qui travaillent sur des dispositifs expérimentaux, etc. Mais souvent, ça coûte un peu plus cher à produire. Les chaînes de production sont différentes. Hein. Le logement est plus long à produire, il coûte plus cher aux promoteurs. Donc, vraiment, il faut savoir le discours qu'on a. On construit pour un logement habitable, on construit pour soutenir l'économie, on construit pour soutenir le marché de l'emploi. C'est pas la même chose et on fait pas les mêmes choses.
France Culture, sous les radars, Nora Amadi.
Si les changements récents dans l'accession à la propriété sont si mal vécus par des milliers de Français, c'est parce que le mythe d'une France de propriétaires est solidement ancré depuis des décennies. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Nora, bonjour à tous.
Vous vous êtes plongé dans les archives pour remonter aux origines de ces représentations.
Oui Nora, et pour mieux comprendre précisément ces origines, il faut en revenir à une époque où la propriété de son logement n'allait pas de soi. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut reconstruire les dizaines de milliers de logements détruits. L'État dirige et encadre strictement cet effort national qui est étroitement lié aux politiques d'aménagement du territoire. La construction de nouveaux logements dont les Français seraient propriétaires n'est donc pas une priorité. C'est Bernard Chauchois, secrétaire d'État à la reconstruction et au logement, qui martèle ce message en 1956.
Il faut bien se persuader de ceci, c'est qu'à notre époque, l'élément mobilité de main-d'œuvre est un élément qui doit toujours être présent à l'esprit du ministre de la Construction et du Logement. Et que par conséquent, quand je dis qu'il faut faire davantage de locatifs que d'accession à la propriété, je ne veux pas dire que le Français qui a envie de devenir propriétaire en construisant un logement avec le concours des primes et prêts, celui-là, bien entendu, n'a pas raison, mais je ne peux pas, vous le pensez bien, donner la priorité dans mes objectifs à une politique qui serait une politique uniquement orientée vers l'accession à la propriété.
Et la reconstruction achevée, l'État entend se désengager progressivement des grands projets de construction qui coûtent cher, hein, il faut le dire, aux finances publiques. Georges Pompidou, Premier ministre en 1965, évoque aussi un certain esprit français qui pousserait les ménages du pays vers l'accession à la propriété.
Nous avons une loi qui permet aux locataires d'HLM d'acquérir la propriété de leur appartement. Nous avons la loi sur l'épargne logement, elle aussi pour favoriser l'accession à la propriété, ce qui me paraît conforme au vœu profond du Français qui ne désire certainement rien tant que de se sentir chez soi.
Mais le réel désengagement des pouvoirs publics date plutôt des années 1970. Sous l'effet de la crise économique, l'État se délaisse les grands projets de construction et incite les Français à devenir propriétaires de leur logement. Dans la continuité du propos que nous venons d'entendre de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing relie cette politique à une certaine vision de l'âme et même des racines du pays. Il s'exprime ici en janvier 1978 en évoquant plusieurs grands projets de son gouvernement.
Le premier d'entre eux est de rendre les Français propriétaires de la France. Par la propriété de leur logement, nous avons avancé dans cette voie au cours des dernières années et notamment en créant cette année l'aide personnalisée au logement qui va désormais faciliter l'accession à la propriété. Dans notre peuple français, composé de terriens, souvent déracinés, il faut rendre des racines à chacun. Et y a-t-il des racines plus profondes que celles qui vous lient à votre maison, à votre terre, à votre instrument de travail ?
Alors, ce discours et ses références marquent plusieurs générations de décideurs politiques. Un peu plus tard, en 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui s'inscrit dans cette continuité.
Mon ambition, ce serait de faire de la France un pays de propriétaires. Il y a un Français sur deux qui sont propriétaires de leur logement. Il y a 80% des Espagnols qui sont propriétaires de leur logement. Il y a 76% des Anglais qui sont propriétaires de leur logement. Il faut qu'on favorise la propriété pour les Français.
Alors Anne Lambert, au-delà des mots des responsables politiques que nous venons d'entendre, il y a des visions du rôle de l'État. Un État qui est un acteur majeur du secteur de l'immobilier et qui en devient progressivement le régulateur. C'est cette évolution-là qui apparaît en creux derrière ces mots et derrière ces discours.
Oui, alors effectivement, le rôle, la place de l'État et le poids du logement dans les dépenses publiques évoluent. Et on voit progressivement, le discours au départ est vraiment axé sur un libéralisme économique. On a créé le marché du crédit en France en 67, le crédit hypothécaire. Et du coup, c'est désengagement de l'État après la reconstruction, développer les outils économiques, faire du logement un bien marchand, en fait, avec un marché crédit, etc. Parce qu'avant, on rappelle, il fallait quand même attendre l'héritage de ses parents pour avoir un logement avant la guerre. Donc là, il y a cette espèce de progrès au nom du libéralisme économique, d'un certain progrès du niveau de vie, etc. Mais après, il y a vraiment un tournant moral, politique, conservateur, en fait, avec cette idée, effectivement, les racines, les terriens, enfin, identitaires quasiment, qui est transmis pour différentes raisons, repris par Sarkozy. Je souligne juste, j'avais oublié ce passage, que Il prend pour exemple l'Espagne ou l'Angleterre, où le taux de propriétaire est de 80%. Ce sont les pays, depuis 2008, depuis la crise, qui se sont le plus paupérisés, où les classes moyennes se sont effondrées, parce que ce marché, justement, du logement n'était pas soutenable. Le marché du crédit, enfin, il y a eu plein de faillites de saisies immobilières suite à la crise des subprimes. Ils ont un système d'endettement un peu différent. Et au surenchérissement du coût de l'énergie. Donc typiquement, là, on voit, c'est intéressant l'histoire pour ça, l'exemple de l'Espagne et de l'Angleterre, c'est vrai, où le taux de propriétaire est très élevé en Europe, parmi les plus élevés, et en fait, sûrement un anti-modèle à suivre. Enfin, aujourd'hui, je pense que tout le monde pourrait partager ce diagnostic.
Mais Anne Lambert, on est toujours en France à 58% de propriétaires. Estimez-vous que ce retournement peut conduire aussi à un changement culturel de la part des Français et qui pourrait, pourquoi pas, aller vers un modèle que, par exemple, les Allemands prônent, où vous n'êtes pas forcément propriétaire de votre logement? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un changement culturel qui peut s'opérer?
Alors les changements, je sais pas trop, mais les changements culturels, de toute façon, c'est très long, les changements d'aspiration, de normes, ça, ça, c'est, c'est effectivement très lié aussi pour les ménages à l'offre de logement qu'on leur propose, l'offre de territoire, les modèles d'habiter. Et le modèle allemand, on s'en inspire beaucoup pour le logement des personnes âgées, les coopératives, l'habitat partagé, etc. Mais en fait, sur des dispositifs plutôt expérimentaux en France. Et ça, en tout cas, il me semble, il y a vraiment les choix résidentiels, c'est pas juste dans la tête des ménages, des individus que ça émerge. C'est une construction politique liée au discours, mais surtout au dispositif qui aide à orienter les choix, qu'ils soient contraignants, réglementaires, juridiques, inscrits dans le droit, qu'ils soient financiers, utiliser des leviers financiers pour les inciter à choisir des habitats plus durables. Il me semble que c'est plutôt ces leviers-là qu'on pourra actionner dans un temps d'ailleurs qui peut pas être très long, parce qu'on voit que la répétition, par exemple des canicules plutôt dans l'année, plus intenses, plus fréquentes, rend inhabitable une partie du parc de logements pour les ménages, et c'est pas seulement pour les ménages pauvres, les 4 millions de ménages hors du parc ordinaire ou mal logés au nom de la Fondation Abbé, selon la Fondation Abbé Pierre. En France, la précarité énergétique, c'est France Stratégie qui a mesuré, 20% des ménages, c'est énorme, ont expérimenté le froid de manière, et la chaleur en été, mais de manière continue sur plusieurs jours en 2021-2022. Donc 20%, c'est un ménage sur 5. Donc effectivement, on voit qu'on ne peut pas attendre non plus que les choix des individus changent, les aspirations. Nous, pendant le Covid, on a fait une enquête à l'INED, à l'Institut national d'études démographiques en population générale, pour savoir leurs critères de choix de logement. Et s'ils avaient à déménager, qu'est-ce qu'ils choisiraient ? En un, ça reste le coût du logement. Il ne faut pas se leurrer, en fait. On achète les primo-accédants, en tout cas, avec les revenus du travail. Donc, un, choix du logement. Deux, localisation. Trois, espace vert. Donc, c'est un critère important pour eux. Mais il est d'abord dans la contrainte de ce qui est accessible financièrement, économiquement. Et le levier financier et juridique, à mon sens, doit être
réactivé. Mais justement, dans le cadre du Conseil national de la refondation qui s'est tenu en juin dernier et qui a été consacré au logement, la Première ministre a annoncé des dispositifs, mais les acteurs du logement les ont jugés particulièrement médiocres, ont été très en colère par rapport à la non-prise en compte de l'urgence. L'ex-ministre, je le disais en introduction, Olivier Klein du logement, parle de bombe sociale. Est-ce qu'il faut s'attendre justement à faire face aujourd'hui, peut-être, non pas à ce que l'abbé Pierre appelait en 1954 dans son appel de la nécessité justement de remettre le logement au centre, mais est-ce qu'on va vers quelque chose qui est de l'ordre d'une explosion sociale sur ces questions ?
Non, l'État a les moyens de réguler et c'est des arbitrages politiques. Donc on peut réagir et corriger un peu le marché. C'est une question de volonté politique. Et voilà, on a vu ce qui s'est passé avec les APL. Bon, voilà, on peut supprimer, augmenter 5 euros dans les APL. On peut faire pareil avec le logement. Là, il y a une extension du PTZ. Donc c'est plus, est-ce que la seule réponse qu'on doit apporter aujourd'hui, c'est soutenir la construction neuve ? À mon sens, c'est non. C'est non pour des raisons écologiques, mais aussi parce qu'il y a un parc de logements vacants. On a le plus grand parc de résidences secondaires de toute l'Europe, avec 3 millions de résidences secondaires inhabitées la moitié de l'année. Donc il y a plein d'outils, il y a plein de logements sur le logement marché locatif qui ont été confisqués par la location saisonnière touristique, le Airbnb. Ouais. Donc on a une réserve de logements. Il faut quand même arrêter de encore aujourd'hui en 2023 de soutenir la construction neuve au nom de l'emploi en France non délocalisable et au nom du désir des Français que, je rappelle, on mesure mal dans les enquêtes nationales. Donc les sondages d'opinion, c'est intéressant, mais c'est pas la réalité des choix.
Ouais, il faut revenir à l'État régulateur, c'est ce que j'entends. Merci beaucoup Anne Lambert d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre « Tous propriétaires, l'envers du décor pavillonnaire » s'est paru au Seuil. Merci à Antoine Dulster, pardon Antoine, je vais le redire. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission. À June Loper qui l'a réalisé à la technique, c'était Olivier Arnaud.